Cap Cap, Jacques Lavergne, bonsoir. Aujourd'hui, Cap Cap avec
Cécile Jacquemet.
Les agriculteurs ont une vie difficile et des conditions de travail de plus en plus complexes. Dans un monde où argent, finances et rendements sont devenus les rois, il faut bien reconnaître que leur position devient intenable et que les petites exploitations ont de plus en plus de mal à survivre. Bon nombre d'agriculteurs travaillent à perte, leur vie est épuisante et douloureuse, les suicides sont fréquents. Industrialisation des méthodes, remise en cause de leurs méthodes de travail, chasse justifiée tout de même aux pesticides. Accords internationaux tels le TAFTA, fermes géantes, aides européennes supprimées ou diminuées, et une grande distribution qui les prend pour des imbéciles et qui les exploite. Le tableau est humainement et économiquement soucieux. Le nouveau ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travert, ancien hiérarque socialiste, dont le seul mérite est d'avoir rejoint assez tôt le candidat Macron, peine à convaincre. Les récentes assises de l'alimentation, vaste messe du verbe, où l'on a surtout entendu les grands industriels du secteur, n'ont rien apporté de concret au monde agricole. Un monde qui est à l'évidence en crise, un monde qui est essentiel aux Français et à leur alimentation, une alimentation qui mériterait un peu plus d'attention quant à sa qualité et surtout à la composition des produits que l'on nous fourgue dans des emballages censés nous renseigner sur le contenu. Des emballages comportant des notices illisibles, indécodables, sauf pour quelques initiés qui ont du temps. Mais on ne peut pas faire ses courses avec un dictionnaire, une application spécifique sur son smartphone et une agrégation de biologie en poche. Bref, on nous enfume et on nous prend pour des demeurés. Qui ? Eh bien sûr, les industriels du secteur alimentaire, immense société capitaliste, où profits et dividendes priment sur la qualité et la transparence. Nous en avons vu récemment un triste exemple dans le domaine du lait. Bien aidés par leurs très efficaces lobbyistes qui agissent à Bruxelles avec des méthodes très critiquables, assorties de facilités administratives octroyées par l'institution et d'une écoute complice de celle-ci, de ses fonctionnaires et de ses élus. À tout cela s'ajoute bien sûr la grande distribution qui cumule les mêmes défauts que ceux imputés ci-dessus aux industriels. Nous voilà, nous consommateurs de base, bien mal embarqués dans cette filière où nous ne comptons pour rien. Achète, bouffe et tais-toi, tel est le credo des acteurs industriels de la filière. Dans cette affaire, il y a donc deux groupes de victimes situés aux deux extrémités de la chaîne, les producteurs et les consommateurs. Alors expliquez-moi pourquoi les premiers prennent en otage les seconds, les empêchent de circuler, bloquent leur ville, leur transport scolaire, empêchent les gens de rentrer chez eux, les contraignent à d'énormes et onéreux détours sur des routes secondaires qui se révèlent vite dangereuses, surchargées qu'elles sont par un tel trafic et des conducteurs éreintés. Une fois de plus, les syndicats agricoles, dont bien sûr la FNSEA, qui souvent soutient les agriculteurs de base comme la corde soutient le pendu, ont mis en place une stratégie de notre âge et qui n'a comme effet que de leur aliéner ceux qui auraient tout intérêt à les soutenir, des méthodes imbéciles qui leur font perdre le capital de sympathie qu'ils avaient auprès de la population. Vous avez noté que bien évidemment les forces de l'ordre sont très discrètes avec des pudeurs de jeunes filles pour intervenir et dégager l'espace public. Nous avons de bons préfets qui exécutent à la lettre les ordres de Paris. On évite ainsi des scènes de violence qui pourraient réchauffer la sympathie des gens, comme dirait un certain, envers les manifestants. Et puis on économise les forces du personnel policier, beaucoup trop sollicité ces derniers temps, et souvent plus à l'aise dans le gazage ordinaire du migrant que d'agriculteurs qui pourraient, eux, se rebiffer. Sic transit gloria Macronus. Cela étant dit, nous recevons ce jour sur Occitanie Première une artiste, une femme de spectacle. Elle a beaucoup de cordes à son arc, un tourbillon de cordes même. Et elle va nous l'expliquer, nous jouer, voire peut-être nous chanter tout cela. Bonjour Cécile Jacquemet.
Bonjour Jacques, bonjour à tous. Oui.
Ça a commencé très tôt pour vous. Oui. J'ai lu quelque part qu'à 16 ans, vous brûliez déjà les planches.
Oui, une passion qui est née avec moi en fait, puisque je pense avoir toujours eu en moi cette passion du spectacle. Et j'ai pu, parce que j'avais des parents compréhensifs.
Oui, parce que voilà, vous n'étiez pas curieusement issu du monde du spectacle.
Non, du
alors souvent, ceux qui en sont issus, les parents sont passés avant. On a vu les amis des parents, on a baigné dans ce monde-là. Mais vous, pas du tout.
Pas du tout, oui. Mon père était ingénieur conseil dans le bâtiment. Ma mère, institutrice. Très éveillée à l'art quand même et à la culture. Et ils m'ont transmis ça. Donc, j'ai pu commencer mon métier à l'âge de 16 ans.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait à 16 ans ?
À 16 ans, je rentrais dans une compagnie qui s'appelait la Compagnie du Chalet, animée par un moins honorable énergumène qui s'appelle toujours Patrick Fonte.
Ça me rappelle
du fameux duo Fonte-Val.
Oui, Fonte-Val, monsieur Val, voilà. Qui a sévi malheureusement pour le plus grand malheur de France Inter, parce que je n'ai jamais considéré que ce soit un bon président.
En effet, oui.
Et Patrick Fonte, que j'ai connu en radio, puisque à Paris, il y avait sévi avec Ruquier à une époque sur France Inter.
Oui, exactement.
J'allais écouter ça le matin à Paris, dans mon studio déjà. Et après, il a eu des suites un peu plus difficiles. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce garçon, mais il est tombé à une mauvaise époque avec de mauvais gestes.
Oui, c'est exact.
On ne dira pas plus. C'était lui. Alors ça a démarré, il était d'ici, Patrick Fonte ?
Non, je suis partie en Haute-Savoie. Il était installé en Haute-Savoie.
Voilà, il me semblait bien, oui.
On partait en tournée, j'étais sur Paris. Ça m'a permis de jouer quand même dans des salles intéressantes avec un bon public à l'époque, parce que Patrick Fonte, Fonte-Val, drainait un public enthousiaste et qui aimait les iconoclastes de leur gabarit. Donc je comprenais peut-être pas tout ce que je disais à l'époque, mais
mais
parce
vous
que
le disiez.
Je le disais,
et fort bien.
Pas comme France Gall qui ne comprenait pas. Ce que lui écrivait Gainsbourg, mais je le disais bien et j'ai pris un grand plaisir à le dire. Après ça, je me suis retrouvée à travailler avec des compagnies plus de la région et à travailler dans des spectacles de café-théâtre, beaucoup pour le début.
Vous n'avez pas eu de formation, vous n'avez pas fait
je n'ai pas fait d'école. J'ai fait l'école des planches, en fait, l'école de la balle, comme on dit.
Voilà, comme nous en radio ici, on s'est formés. Sur le tas et sur le micro.
Voilà, en suivant quelque peu des stages de ci, de là, pour me parfaire à certaines techniques qui m'intéressaient plus que d'autres.
Mais les études, à 16 ans, vous avez arrêté les études ?
Oui, j'ai arrêté les études.
La mère institutrice, elle a dû être ravagée par ça.
Oui, ils m'ont expliqué, parce que j'ai quand même posé la question à mes parents à un moment donné, pourquoi vous m'avez laissé partir ? Qu'est-ce qui vous allait...
C'était pas un reproche.
J'étais presque inquiète de leur jugement à l'époque, c'est-à-dire qu'ils m'ont bien expliqué qu'il n'y avait pas d'autre solution face à une jeune fille déterminée.
Beaucoup de caractère.
Ouais. Ce que je ne soupçonnais pas toujours, mais donc ça m'a réconfortée sur mon choix. Mais après, on a toujours des moments de doute, comme dans tous les métiers. Et puis, j'ai cherché à faire d'autres choses à d'autres moments, mais non, le théâtre a pris toujours le dessus. Finalement, j'avais toujours du boulot au moment où je m'y attendais le moins, et donc c'était assez magique.
Et les sœurs et frères, ils ne sont pas tombés dans le même travers
que
vous ?
Alors, j'ai un frère qui n'est plus là aujourd'hui, malheureusement, mais qui était pianiste de jazz.
Voilà. Ah, donc lui, il avait quand même un peu suivi...
On a tous suivi une formation... pour les filles, danse classique. Donc, on était quatre enfants dans la famille, avec ma sœur qui a fait de la danse classique comme moi. Et tous on a fait des études de piano. Voilà. Donc, ça a rajouté des cordes à Monarque aussi.
Oui, pour un piano, des cordes, hein, vous allez me dire, c'est un peu
c'est
normal
pas mal.
Aussi. Hein.
Il en faut.
Donc, pas de formation, mais déjà un peu jeune, rebelle, anarchiste un peu. Parce
que
pour faire ça, il faut quand même avoir des idées bien arrêtées, bousculer un peu son quotidien, son milieu
familial. Oui, je pense qu'il y avait de ça.
Ça vous est resté
mal. Oui, ça m'est resté, bien sûr. D'ailleurs, j'ai bien transmis ça à ma fille aujourd'hui qui a 21 ans et qui est une bonne anarchiste et qui fait qui fait un peu mon miroir. Je pense que je me retrouve aussi au même âge.
Elle fait du spectacle aussi.
Elle fait de la photo et de la vidéo et elle écrit aussi.
Alors le théâtre, on l'a dit, l'événementiel. Alors on va revenir sur tout ça, mais j'ai lu l'événementiel, la mise en scène, la TV, le cinéma, la radio, le piano, le chant, la danse.
Il est bon de savoir faire plein de choses quand on fait ce métier, parce que ça donne beaucoup plus de liberté. Et puis c'est passionnant d'apprendre tout ça. Voilà, donc il m'est arrivé de jouer un peu de piano sur scène, sur une mise en scène à l'époque de Jacques Rosner, qui s'appelait « Femme au bord d'un paysage fluvial », où je jouais, je ne sais plus quel morceau de « Thelonious Monk ». Voilà. Mmh. Oui. Et autour de minuit, je ne me trompe pas, c'est bien Thelonious Monk.
Je crois que c'est ça, mais je ne prendrai pas le pari, mais je pense que c'est ça.
On va peut-être me corriger.
Oui, on va voir.
Voilà, le piano m'a servi, la danse aussi pour tout ce qui est gestuel, maintien.
Vous savez que vous l'avez appris, la danse?
Alors la danse, par contre, j'ai pris des cours pas très loin de ces studios ici, rue des Gestes.
Ah oui, effectivement,
Il y avait un cours de danse classique, aujourd'hui c'est devenu un restaurant de canards. Bon, je dansais peut-être un peu comme un canard, mais...
Il y avait la danse des canards. Déjà, vous le savez, donc
oui,
c'était peut-être prédestiné.
Oui, c'est peut-être en hommage à ma grande capacité. Non, mais j'aimais beaucoup la danse classique. Il y avait une vraie pianiste qui nous accompagnait.
Qui a la barre avec
des
pointes.
Voilà, la barre classique, les pointes, etc. Donc, j'en ai gardé un bon souvenir de ces cours, même si je souffrais un peu, parce que je ne pense pas avoir été particulièrement douée pour ça, mais...
Mais ça vous aiderait. Vous avez une formation un peu comme les artistes américains qui savent tout faire,
oui.
Qui ont touché à tout,
oui.
Souvent qui ont démarré comme vous, directement sur les planches, puis après qui ont travaillé, parce que rien ne s'obtient sans travail, il faut le savoir. Hein.
Ah ouais.
Je pense que vous ne me direz pas le contraire.
Oui. Mais c'est un plaisir quand on peut le faire dans ces métiers-là. On y mêle passion et parfois on souffre un peu parce qu'on n'arrive pas à faire les choses tout simplement, mais... Puis on peut avoir peur, mais comme on dit, derrière chaque peur, il y a un désir.
Vous avez le trac toujours ?
Oui.
Oui, c'est quelque chose dont on ne se guérit jamais, ça, vraiment.
Non, et puis plus ça va, plus on l'a. Parce que plus ça va, plus on a conscience aussi de ce qu'on fait, parce qu'au début, on est peut-être un peu inconscient. Enfin, à 16 ans, j'étais assez inconsciente de ce que je faisais, donc je pense que j'avais moins le trac que je ne peux l'avoir aujourd'hui.
Ah, peut-être, oui. Mm-hmm. Mais vous avez pris l'assurance, le métier.
Oui,
ça doit aider quand même. De
ça
dire
aide,
qu'on
ça
maîtrise,
aide.
On maîtrise sa technique.
Oui, oui.
Alors, le théâtre, qu'est-ce que vous jouez au théâtre ?
Alors, ce que je joue actuellement ?
Oui,
ou ce
actuellement,
que je joue,
puisque vous jouez d'ordinairement, ce que vous avez
alors,
joué aussi.
Alors, ce que je joue d'ordinairement, en fait, on va commencer par là. Beaucoup de spectacles d'humour... Donc j'ai joué dans Cuisine et Dépendance, Les Monologues du Vagin.
Qui n'est pas une pièce très aisée.
Non, mais ça se joue dans un café-théâtre toujours toulousain qui existe toujours.
Qui en a le privilège, parce que c'est un privilège rare. C'est Paris ou ce seul café-théâtre. Je ne crois pas qu'on puisse les voir.
Alors c'est joué après en amateur, si on a la chance de pouvoir le rejouer en amateur, puisque j'ai vu que ça allait jouer pas loin de chez moi. Là. C'est un spectacle qui m'a bouleversée à jouer et à échanger avec le public, parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire avec le public autour de ces monologues du vagin. J'ai joué plusieurs pièces comme Les Amazones aussi au 3T, pour ne pas les nommer.
On peut les nommer.
Voilà.
Oui.
Actuellement, donc, et j'ai pas mal joué pendant des années de ma propre compagnie, donc Mitsu de Colette. Parce que je suis une grande amoureuse de Colette et que j'ai monté un spectacle qui a tourné plus de 10 ans avec
Mitsu, c'est un peu one man show, non ?
Voilà, je l'ai fait un seul en scène. C'est l'histoire d'une petite artiste de music hall qui, dans les années 14-18, qui rencontre un lieutenant bleu qui est sur le front de la guerre. Et elle a un échange épistolaire avec
vous
lui.
Vous êtes mon lieutenant bleu, c'est ça, hein,
oui.
La phrase, oui, ça me semblait bien.
Mon cher, cher lieutenant bleu. Oui.
Pourquoi un lieutenant bleu ?
Parce qu'il est habillé en bleu horizon, et ce qui n'était pas facile à porter sur les champs de bataille. Hein,
c'était surtout ça le désignait au bal d'ennemi.
Voilà. J'avais récupéré pour l'occasion de ce spectacle un vrai manteau de poilu de l'époque. Et, impressionnant de porter ça... avec les chaussures à clous, etc. Un collectionneur m'avait fait...
C'est agréable à jouer, Colette ?
C'est merveilleux. Moi, je ne me suis jamais ennuyée à jouer ce spectacle. on découvre derrière chaque mot de nouvelles choses, de nouvelles images. C'est hyper féminin, hyper vivant.
T'es fini, voilà. Vous ne le jouez plus ?
Je ne le joue plus parce qu'un autre spectacle a pris la relève.
Oui, voilà. Et qui s'appelle Bipolaire.
Et qui s'appelle Bipolaire, voilà. Ça, c'est mon actualité du moment.
Pourquoi Bipolaire ? C'est un peu inquiétant quand même, Bipolaire.
Bipolaire, oui. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, Bipolaire. Alors, on peut peut-être expliquer ce que c'est, Bipolaire. Dites-le. Bipolaire, c'est un état, c'est une maladie psychiatrique qui fait vivre à ces pauvres personnes qui souffrent, des états de down total, en grosse dépression, avec des états de up qui sont très forts. Voilà.
Donc des états d'excitation,
oui,
on va traduire un peu l'anglais, puis d'excitation.
Oui, excusez-moi,
et d'abattement,
oui, j'utilise ça pour aller plus vite, oui. Mais voilà, des états d'excitation qui en fait permettent... Alors beaucoup d'artistes connus sont frappés par la bipolarité, comme Vincent Van Gogh... Barbara l'était. Je n'ose pas.
Ça n'empêche pas la créativité.
Au contraire.
Est-ce que c'est pas justement un facteur qui peut-être
oui,
peut faciliter la créativité ?
Oui, dans des périodes d'excitation, on ne peut ne plus dormir, avoir 1000 idées à la fois, écrire dans tous les sens, et c'est assez fantastique et tout ça sans drogue. Hein, je tiens à le signaler, c'est pas du tout. Donc
vous jouez bipolaire, ça veut dire que vous jouez une personne qui est bipolaire ?
Voilà, je joue une
personne. Seule en scène, là aussi ?
Oui, je suis seule en scène.
Vous aimez bien, ça ?
J'y ai pris goût. Et c'est vrai que c'est super, parce qu'en fait, mon partenaire, c'est le public, avant tout. Et quand on peut jongler comme ça, de soi au public, et d'être dans ce ressenti-là, on est maître à bord, alors ça fait un peu peur parfois, mais c'est aussi une aventure magnifique, oui.
C'est important, le public, oui, bien sûr, parce qu'on joue pour lui. Il y a que, c'est direct, le théâtre.
Oui,
il y a les acteurs et le public. Donc, il doit se passer quelque chose. Vous devez le conquérir tous les soirs ?
Oui, absolument. C'est une relation presque charnelle, en fait.
Ça veut dire qu'il faut y mettre beaucoup de soi-même ?
C'est évident. Il faut y mettre le maximum de ce qu'on peut y mettre au moment où on joue.
Combien dure le spectacle ?
Le spectacle dure une heure. Avec des parties qui racontent ce qu'est la bipolarité, la dépression, les périodes d'excitation, les dialogues avec les psychiatres, tout ça. Mais je tiens à dire qu'on y rit beaucoup.
Oui, j'allais vous dire ça.
Oui, parce que
présenté comme ça, ça a l'air un peu sinistre.
Ouais, ça a l'air un peu sinistre, excusez-moi, mais on rit beaucoup dans Bipolaire. Bon. Voilà, et donc je tenais à faire ce témoignage parce que je suis moi-même bipolaire, donc en fait ça raconte mon parcours, tout en étant une femme qui n'est pas tout à fait moi. Voilà, l'auteur de ce spectacle s'appelle Brice Forest.
Oui, j'allais vous le demander tout en sachant, puisque j'ai l'affiche sous les yeux, très belle affiche d'ailleurs, avec... Bon, elle n'est pas très, très vendeuse, l'affiche quand même, il y a une... cet appareil-là, médical,
oui.
On
peut expliquer l'affiche.
Oui, expliquez-nous.
Si
alors, qu'est-ce qu'on voit,
cette affiche ?
On voit une dame
une
assise,
de dos.
Voilà, une femme de dos, dénudée et assise sur une main.
Voilà, une main en bois.
Voilà, avec à côté d'elle, une perfusion.
Oui, d'un côté, du côté droit, une perfusion avec le bras qui tombe et à gauche, une main levée qui lance des confettis. Donc, c'est bien pour expliquer que les deux états, donc de la bipolarité, et au milieu, l'équilibre, la colonne vertébrale. Voilà, parce qu'on trouve quand même l'équilibre un jour.
C'est une thérapie pour vous, là, cette pièce ou pas ?
Oh, la thérapie est déjà faite depuis longtemps.
Oui.
Non, j'avais besoin de... Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens comme moi, bipolaires. Alors, on peut dire qu'il n'y a pas une maladie, mais beaucoup de cas selon les patients, en fait, c'est pas du tout. J'ai trouvé dans mon parcours, avec le recul, des choses drôles à raconter aussi, malgré la souffrance que ça représente. En fait, ça touche, il faut savoir qu'en France, ça touche 2 millions de personnes. Donc, on n'est pas. on n'est pas tellement au courant de ça, et c'est bon de pouvoir en parler librement. Voilà.
On fait une première pause musicale.
Oui.
C'est vous qui l'avez choisi.
Ah, c'est moi qui l'ai choisi.
Dites-nous pourquoi vous l'avez choisi.
On va écouter Géant. Géant, c'est un artiste toulousain au départ, qui est parti vivre un peu plus loin maintenant, qui chante une chanson de Bernard Dimet qui s'appelle L'Acrobate. Alors, la musique est de Charles Aznavour. Alors, il est coquin, ce Charles Aznavour, et Bernard Dimet aussi est assez coquin. Tout ça, j'ai choisi parce que je prépare un tour de chant de chansons coquines, et il y aura 7 chansons.
Ah, vous en parlerez tout à l'heure, mais on écoute d'abord.
On a fait l'amour avec une acrobate. La plus belle fille du monde, elle ne vous dit plus rien. Y a plus rien qui vous tente, ni rien qui vous épate. On a compris que personne saura faire ça si bien. Comment vous expliquer, c'est extraordinaire. À vrai dire, en français, y a pas de mot pour dire ça. Pour le plaisir des sens, qu'est-ce qu'on irait pas faire? C'est pire que l'esclavage, on est comme des forçats. C'est interdit au moins de 16 ans, vu que c'est pas de l'amour ordinaire. Mais nous, comme on a plus 16 ans, qu'est-ce que ça peut nous faire? Pour dire la vérité, l'amour acrobatique, c'est pas de la volupté, c'est du dédoublement. On est tout parcouru de frissons. Comprends plus ce qui se passe, ni pourquoi, ni comment. Vous avez la main là? Vous croyez que c'est la tête? Et voyez la surprise, la tête est à l'autre bout. On remonte au point de départ, histoire d'y faire sa fête. Mais va donc le repérer. On trouve des têtes partout. C'est interdit au moins de 16 ans, vu que c'est pas de l'amour ordinaire. Mais nous, comme on a plus 16 ans, qu'est-ce que ça peut nous faire? Ça vous passe par-dessus, par-dessous, ça se tortille. Et je ne sais combien de vous qui travaille en même temps. Et puis c'est l'explosion, le plaisir vous torpille. Essayez d'en trouver qui sache en faire autant. Et le jour où je choisirai une épouse pour la vie, je lui dirai d'accord à une seule condition. Tu vas prendre dès demain des cours d'acrobatie. T'inquiète pas pour le prix, c'est moi qui paie les leçons. C'est interdit au moins de 16 ans, vu que c'est pas de l'amour ordinaire. Mais nous, comme on a plus 16 ans, qu'est-ce que ça peut nous faire? C'est interdit au moins de 16 ans, vu que c'est pas de l'amour ordinaire. Mais nous, comme on a plus 16 ans, qu'est-ce que ça peut nous faire? Boudou.
Voilà, c'était Géant qui chantait, on peut nous dire qui est Géant, et puis avec des paroles de Bernard Dimet, dont certains se souviennent, pas tous, donc vous allez être obligés de nous dire aussi qui
oui,
est
Bernard Dimet. Alors quand on s'intéresse à Bernard Dimet, il faut savoir que c'est lui qui a écrit Mon truc en plume.
Ah, c'est lui, oui. Ça,
voilà,
oui.
Mais donc c'était un poète parisien, bien accroché à Montmartre, qui arpentait les rues et les bistrots, hein. Il était quand même porté sur la bouteille. Géant a repris tout le répertoire pratiquement de Dimet, a mis certaines chansons, enfin certains textes poétiques en musique. Et donc c'est à suivre de près. Et cette chanson est issue d'un album qui s'appelle Le cul de ma sœur. Alors Le cul de ma sœur, c'est aussi
ça,
une chanson
beau titre,
de,
hein.
C'est aussi une chanson de Bernard Dimet. Donc tout un répertoire de chansons coquines que Géant a mis en musique ou à reprise. Et je vous conseille, je suis heureuse de vous avoir fait découvrir Géant, en
oui,
tout cas.
Oui.
Et voilà, si j'ai fait ce choix musical, oui, c'est parce que je prépare un tour de chant.
Voilà, j'allais vous poser la question. Voilà. Vous aviez un peu appâté
oui,
avant le début de la chanson.
Ça.
Vous préparez un tour de chant, parce que ça, c'est une de votre autre corde.
Oui.
On a beaucoup parlé du théâtre, mais venons-en, vous chantez aussi. Vous avez un peu fredonné tout à l'heure. Mais...
Oui, j'aime beaucoup. Oui, comme je la travaille, je l'ai dans l'oreille. Oui, j'aime beaucoup chanter sur scène. Et alors, j'avais dans Mitsou mis deux chansons. Dans Bipolaire, j'ai mis une chanson aussi. Et puis, petit à petit, je me suis confiée à deux musiciens qui m'entourent. Et puis, ils m'ont dit, allez, on y va, go. Et donc, en fait, on est en train de préparer un tour de chant de chansons coquines avec un pianiste donc, et un contrebassiste.
Voilà. Et ça va se
ça,
faire
ça
quand
va
et
se
où
faire le 30 mars dans un tout petit lieu à Blagnac qui s'appelle Comme à la maison. C'est un petit restaurant d'amis. Alors pour commencer, j'ai choisi un petit endroit bon, qui va être archi plein, je pense, ce jour-là. Et après, j'espère bien qu'on va tourner avec ce spectacle. Pour l'instant, ça s'appelle Cabaret coquin et autres gourmandises. Voilà.
Non, c'est déjà un titre très alléchant. Hein. Très, très alléchant. Alors, le chant, vous l'avez travaillé aussi. Vous avez
oui,
parlé de la danse tout
oui,
à l'heure. Vous l'avez travaillé, vous avez pris des cours.
Oui, j'ai pris pas mal de cours de chant lyrique, de chant. J'ai même chanté dans des cathédrales, à Auch notamment, pour des mariages. Et puis, bon, je ne suis pas une chanteuse lyrique. Ça demande un travail incroyable que je ne sais pas faire et que je n'ai pas enfin, en moi. Mais j'ai gardé des beaux restes et puis je travaille toujours le chant. En fait, ça se travaille tous les jours, le chant, comme c'est un instrument. Hein.
Donc, comment vous le travaillez chez vous?
Chez moi, alors je travaille, j'enregistre mes cours de chant quand je travaille avec John. J'ai la chance d'avoir trouvé un prof de chant pas loin de chez moi. J'enregistre les cours et pour retravailler, je remets l'enregistrement, je fais mes vocalises et puis après, je travaille tout mon répertoire.
Oui, parfait. Le piano, vous le travaillez toujours aussi?
Oui, un peu moins, je suis feignante sur le piano.
Des claquettes, oui, ça vous a intéressé?
Oui, oui, oh, oui, bien sûr. Mais je m'en mêle même avec la langue, mais les pinceaux. Oui, c'est pas évident les claquettes. Hein. Ça me passionne aussi et j'espère bien avoir trouvé le temps de m'y accrocher plus.
Les tangos argentins, j'ai lu quelque part
oui,
aussi que ça vous passionnait. Pourquoi le tango argentin?
Oh, c'est une danse très charnelle, magnifique et passionnée. J'en fais un peu. J'en amorce quelques pas dans Bipolaire à un moment donné où je parle de ça et d'une soirée que j'ai passée avec un homme à danser le tango argentin. Oui, j'ai pris quelques cours. Bon, après, ce qu'il faut, c'est trouver un partenaire. Alors, je lance un appel.
L'appel au peuple, je rassure tout de suite, ce ne sera pas moi. Malheureusement, je ne suis pas danseur et je crois que mon oreille ne me le permettrait pas. Alors, vous savez faire beaucoup de choses. Il n'y a qu'une chose dont vous ne nous avez pas parlé, peut-être parce que vous ne la pratiquez pas, c'est l'écriture.
L'écriture, eh bien, très peu. J'ai, plus jeune, écrit pas mal de choses et je ne sais pas pourquoi. J'aime passionnément l'écrit, lire, réécrire même parfois. J'ai travaillé quand même avec quelques auteurs. J'ai fait pas mal de réécriture. Mais écrire, moi, je trouve qu'il y a tellement de belles choses. J'ai l'impression que comment dire ça?
Vous ne seriez pas à la hauteur ou...
Oui, ce n'est même pas le mot pas à la hauteur. Ce serait. Oh, je ne trouve pas les mots, mais c'est comme ne pas oser quelque chose. Je pense que plus ça va, plus avec l'âge, je me pose. Alors, je pense que quand je serai plus posée encore, j'écrirai plus. Là, j'ai la chance qu'on écrive pour moi. Donc,
oui, le bipolaire a été écrit, vous l'avez dit tout à l'heure, oui. Par Brice Forest. Qui est Brice Forest ?
Alors, Brice Forest, bah, c'est mon compagnon.
Bah, voilà. Déjà, c'est bien. Hein, donc, ça fait en famille, donc.
C'est quelqu'un qui a écrit déjà plusieurs romans, pour l'instant pas publiés, mais on espère bien qu'un jour... en tout cas, pour lui, c'est un événement. C'est la première pièce de théâtre qu'il a écrite sur mon histoire, d'après mon histoire. Donc, en fait, c'est assez fidèle à ce que j'ai pu lui raconter. Donc, et il a beaucoup d'humour, cet homme-là. Donc, en fait... ça a apporté la touche d'humour qu'il fallait mettre dans Bipolaire. Voilà.
C'est compliqué d'être seul sur scène. Physiquement, c'est une performance.
Oui,
vous avez dit tout à l'heure, ça dure une heure, mais au bout d'une heure, vous êtes un peu lessivé, comme on dirait.
Je suis pas. Il me faut du temps pour redescendre après. Il faut se mettre dans un tel état de pas d'excitation, mais de concentration, de performance, de pêche aussi, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Alors, on est un peu sonné après, mais on redescend pas non plus tout de suite.
Et il faut des outils spécifiques pour faire votre métier, au moins deux, la mémoire et la voix.
Oui.
Alors, vous avez travaillé l'une et l'autre particulièrement. Ça s'apprend, c'est un don.
Ça se travaille, la voix, bien sûr, ça se travaille. La mémoire, ça se travaille aussi. Je ne suis pas particulièrement douée pour la mémoire. Ça me demande toujours du travail. Mais
il y a des techniques,
elle est sûre après. C'est mettre une couche, une deuxième couche, une troisième couche. Enfin, c'est comme la peinture, quoi, en fait. Il faut mettre plusieurs strates de couches d'apprentissage et après ça on voit qu'on maîtrise le texte, mais parfois c'est à s'arracher les cheveux, hein. ça va pas tout seul.
Ça vous arrive de déraper ou d'introduire de nouvelles choses?
Alors je me plais à improviser quand même,
voilà, un petit peu,
pas mal avec ce spectacle, parce que je suis en relation directe avec le public et quand je sens que quelque chose peut survenir, c'est toujours agréable. Oui.
Et le clown, faites le clown aussi.
Oui, le clown.
En fait, des choses quand même. Hein,
ah.
Vous avez le temps de faire tout ça, vous nous direz ça après. Mais le clown, oui, avec le gros nez rouge, c'est vous?
Oui, oui, ben, je le fais travailler aussi à mes élèves, parce que je donne des cours et j'anime des ateliers. C'est une passion, le clown. C'est une magie. Curieusement, le nez rouge fait apparaître chez les êtres humains toute leur drôlerie, leur fragilité, leur personnage profond. Et donc, je trouve ça très humain, en fait.
C'est vos élèves qui est-ce ? C'est des gens qui viennent de tous âges, de toutes conditions, qui vont venir ?
J'œuvre à Montastruc, la conseillère à la MJC. Alors là, ça va des enfants aux adultes. J'ai un cours à Toulouse dans un théâtre clandestin dont je tairai l'adresse.
Ah ben, s'il est clandestin, oui, sinon il ne le sera plus.
Voilà.
Vous ne savez pas qu'il y avait des théâtres clandestins?
Oui,
beaucoup de choses clandestines.
Oui.
Alors, comment s'y rend-on s'il est clandestin et si personne ne le sait?
Il faut téléphoner.
C'est le bouche à oreille. On en parlera hors micro alors.
Voilà. Et donc là, j'ai des élèves adultes et puis j'anime de temps en temps des stages aussi. J'aime beaucoup faire travailler le clown. Ouais. C'est un outil pédagogique magnifique. Moi, j'ai beaucoup appris en apprenant le clown, ouais, avec notamment un grand maître que je tiens à citer, Alain Gautré, qui n'est plus parmi nous, mais qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et qui était, je pense que c'est l'homme qui m'a le plus appris, vraiment, dans le métier du spectacle.
Les clowns, ce sont des gens, quand on les voit sur une piste, c'est des gens très complets, ils dansent, ils savent faire de la musique, ils savent jouer de plusieurs instruments. Donc
oui.
C'est un peu vous, ça, quand même, non?
Oui, sauf l'acrobatie, où je ne suis pas très douée. Voilà pourquoi je chanterais l'acrobate aussi, dans le rêve de trouver un homme acrobate. Mais oui, chanter, danser, jouer de tous ces instruments en fait qu'on a en main, c'est le clown aussi.
Et vos élèves, pourquoi ils viennent là? À quoi ça leur sert? Est-ce que c'est le développement personnel? Est-ce que c'est pour avoir plus d'assurance peut-être dans la vie, pour se délasser, pour...
C'est un peu tout ça réuni. Et puis il y a une expression artistique qui est importante quand on touche à ça et qu'on se rend compte que on a la maîtrise de la scène un petit peu plus. On peut aussi exprimer des choses qu'on n'exprimerait pas ailleurs et ça c'est magique.
Faire clown c'est compliqué de restituer un texte, c'est déjà pas simple. Mm-hmm. Mais clown c'est quand même autre chose.
Oui.
C'est une autre dimension.
Alors je fais travailler le clown en cours. Après pour ce qui est du spectacle que l'on fait toujours en fin d'année.
Il y a le fameux pestacle.
Voilà, le pestacle. Enfants,
le pestacle de fin d'année.
Alors on fait les pestacles au mois de juillet.
Voilà. Voilà. Les parents qui viennent applaudir les petites merveilles.
Oui, mais c'est très important parce qu'on y travaille presque toute l'année. Enfin, à partir du mois de janvier, c'est... Mais là, je choisis des textes. Je dis le clown reste un outil. On ne joue pas avec le nez rouge, ça reste dans l'idée du burlesque après, c'est plus, voilà.
C'est Tati ?
Ah oui, Tati. Je suis une amoureuse de Tati.
Jacques Tati. Comment peut-on ne pas aimer Tati d'ailleurs ?
Ah oui, je pense que j'ai vu à peu près une vingtaine de fois mon oncle. C'est magique, ces bruits de pas, les chiens du début. Mmh. Je suis vraiment une amoureuse de Jacques Tati, oui. Depuis gamine, je regarde ce film en boucle.
Vous accompagnez aussi à la création personnelle, j'ai lu, parce que quand sur Internet, on trouve beaucoup de choses, on trouve beaucoup de bêtises, mais vous concernant tout ça, m'a l'air très juste. Alors, c'est quoi l'accompagnement à la création personnelle?
Eh bien, c'est comment aider, notamment, je vais prendre l'exemple de Yannick Lagan, qui est un infirmier dans la vie qui écrivait des textes pour des solos et qui, en fait, avait tout ça en vrac, ne savait pas trop comment faire avec tout ça, avec toute cette matière-là. Et je l'ai donc aidé à mettre en scène son spectacle, à réécrire ses textes. Et aujourd'hui, il tourne un spectacle qui s'appelle « Bien saignant ». Et j'ai accompagné Timbre Poste, j'ai accompagné Géant aussi, qu'on a entendu tout à l'heure. D'autres artistes et ceux qui le souhaiteront. J'ai accompagné dans le spectacle Inventaire Gisèle Grange, qui est aussi une comédienne que j'apprécie beaucoup. Mais l'accompagnement artistique, il est surtout réservé à des gens qui sont auteurs aussi de leur texte. Et comment faire au mieux pour...
Ça veut dire quoi? Ce sont des ateliers d'écriture, non?
Non, ce n'est pas des ateliers d'écriture.
Vous n'écrivez pas.
J'écris avec eux après. Volontiers, je mets la patte à l'écriture quand il y a déjà une matière. Voilà. Parce que j'ai beaucoup accompagné des hommes seuls en scène dans ma vie. Et donc, dans ma vie artistique.
Oui, on avait compris comme ça.
Je ne voudrais pas quand même qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas. C'est l'accompagnement sur plusieurs années de création.
Alors, vous avez une compagnie qui s'appelle Le Tourbillon.
Oui.
C'est pour ça que je parlais de tourbillon.
Oui.
Au début de cette émission, alors, qu'est-ce que c'est Le Tourbillon?
C'est le tourbillon de la vie. C'est le tourbillon aussi, c'est une constellation, en fait, c'est une nébuleuse qui s'appelle Le Tourbillon et dans le système solaire qui est magnifique. Et un jour, je cherchais un nom pour ma compagnie. Une amie me dit, mais il faut que ce soit solaire, Alors, j'ai tapé un système solaire. Je suis tombée sur cette nébuleuse du tourbillon et j'en suis tombée amoureuse. Et je dis, solaire, tourbillon, allons-y.
Alors, il n'y a pas que le tourbillon. Il y a l'atelier création rire théâtre et puis il y a Caravane Tour.
Oui. L'atelier Création Rire Théâtre, c'est l'atelier que j'ai nommé tout à l'heure, qui a lieu un dimanche tous les 15 jours. Voilà, Caravane Tour, c'est une aventure qui est un peu en veilleuse actuellement, mais que j'aimerais bien remettre en route. C'est une caravane, tout simplement, qui est transformée en cabaret. enfin, on joue devant la caravane, voilà, la caravane servant de...
Tirée par les chevaux.
Tirée par les chevaux, ça, non. C'est mon rêve.
Bah oui.
Voilà, en fait, c'est... Attends, j'ai de la chance parce que je réalise que des rêves d'enfance. Je rêvais, gamine, qu'une roulotte avec tirée par les chevaux, là, venait me chercher régulièrement. Et je disais à ma mère, écoute, je vais y aller, là, je dois partir en tournée pour 8 jours. Et je partais avec cette petite famille de cirque, en fait. Voilà, j'ai voulu...
C'est pas le carrosse de Blanche-Neige, vous, c'était plus modeste, mais
oui,
il y avait aussi...
il y avait toute la magie de la petite chariot, famille. Oui.
Bah, c'était Molière, animaux, hein, Molière, voilà, les chariots, on revenait un peu aux origines du théâtre.
C'est ça. Donc, je rêvais de ça. Et donc, j'ai pu le réaliser avec ce caravane tour qui tourne bah, l'été sur les routes du Grand Sud, en fait. Voilà. Et c'est enveilleuse, mais peut-être l'été prochain, ce serait une possibilité. En tout cas, j'ai une fille maintenant qui a 21 ans, donc je parlais tout à l'heure, et qui aimerait bien refaire ça avec moi. Donc, en fait, ça faisait travailler plusieurs artistes autour d'un cabaret, donc autant des gens de cirque que de la chanson, que des humoristes. Voilà.
Alors, puisqu'on en est là, on va arriver à notre deuxième pause musicale. Mm-hmm. Et, bon, elle est toute annoncée, puisque j'ai choisi, mais c'est un peu aussi à dessein, Cabaret, chanté par Lisa Minnelli.
Ah.
Génial. Que vous auriez peut-être pu nous chanter, vous, d'ailleurs,
oui.
J'imagine.
Welcome and bienvenue, welcome.
What good is sitting alone in your room? Or come hear the music play? Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow that horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, oh chum. So come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared 4 sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, ha! And as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go. I'm going like Elsie. Stop by admitting from cradle to
Voilà, Cabaret de Liza Minnelli, qui aurait pu chanter certainement aussi bien Cécile Jacquemet.
Je ne suis pas sûre aussi bien quand même.
Qui avait déjà commencé. Vous n'avez pas vraiment entendu, mais bon, vous irez l'entendre sur scène de toute façon. Alors, on arrive à se renouveler quand on a, comme vous, une très longue carrière. On arrive encore à avoir le plaisir, le désir d'aller sur scène.
Oui, parce
que... Ça ne se perd pas, ça.
Ça ne se perd pas parce qu'on a toujours le désir d'inventer les choses. Parce qu'il est bon de se renouveler aussi pour soi et pour... Et pour continuer à vivre, exister, tout simplement, c'est hyper important. Sinon, on n'existe plus. On se rabâche.
On n'est pas routinier.
Alors après, moi, j'aime beaucoup jouer mes spectacles, parce que ça les...
On ne les joue jamais pareil.
Voilà, on ne les joue jamais pareil. Je vois avec Mitsu, j'ai fait évoluer ce spectacle. Je m'étais mise en scène toute seule, etc. Donc, on fait évoluer ce spectacle... et tous les spectacles, puis surtout quand on est en solo comme ça, on a toutes les libertés, donc on peut inventer à chaque fois de nouvelles façons de jouer avec le public, parce que le public est très important.
Il y a des bons publics, il y a des mauvais publics.
Moi, je dis jamais qu'il y a des mauvais publics. Bon. S'il y a des mauvais publics, c'est qu'il y a des mauvais comédiens.
Oui, ils sont bons, ils sont réactifs, ils adhèrent à ce que vous faites. Ouais. C'est aussi votre métier que de les faire adhérer.
Bien sûr, c'est une vraie complicité, c'est comme avec un partenaire. Moi, je considère le public comme un partenaire de scène, en fait.
L'avantage, c'est que vous en changez tous les soirs.
Ah ouais, en plus.
Ça facilite les choses quand même, non ?
Oui, ça facilite les choses ou pas. Des fois, on est perturbé parce que les rires n'arrivent pas au moment où on les attendait. Et on se dit, oh là là, mais... Et puis, pof, ils arrivent au moment où on ne s'y attend pas. Et moi, j'aime bien ces surprises-là.
Comment est-ce qu'on vit quand on est artiste ? On a des horaires complètement décalés, on travaille quand les autres s'amusent finalement, mais évidemment puisqu'ils viennent vous voir. Est-ce que c'est pas un peu, ça vous exclut pas de la vie sociale ?
Non, parce que j'ai une vie assez réglée du fait que j'étais obligée d'apprendre à régler ma vie aussi. Ça fait partie de la thérapie. De la bipolarité, c'est très important d'avoir de bonnes nuits, etc. C'est primordial pour être équilibré, de manger comme il faut, de dormir quand il faut, etc. Après, c'est une grande joie quand je joue mes spectacles, mais je ne joue pas toute l'année, ni 24 heures sur 24, donc j'ai quand même largement le temps de me reposer et de faire en sorte que... Mais je crois que c'est important, parce que sinon... On perd le pied. Ça m'est arrivé d'énormément jouer en tournée, de changer tous les jours de ville, de plus savoir très bien où j'étais. Même je ne reconnaissais les villes que dans les théâtres, par les théâtres où j'étais passée. Je ne reconnaissais pas la ville autrement. Si je ne mettais pas les pieds sur la scène sur laquelle j'avais joué.
Il y a les avocats qui les reconnaissent aussi à travers les palais de justice. Mais c'est une scène aussi.
Vous connaissez ça. Oui.
Un tout petit peu, oui. La vie de famille, ça ne l'handicape pas, non, ce rythme de... Parce que quand on est créatif, on n'a pas trop intérêt. Ou quand on crée, quand on travaille, on n'a pas trop envie d'avoir une vie agitée autour de soi, non.
C'est comme un métronome, en fait. Ça aide à l'équilibre, je trouve. C'est important. Bon, maintenant, ma fille est grande, mais... Elle nous a suivis en tournée, elle a été présente. Il y a des moments où on n'était pas trop là. Mais c'est des grands moments où on peut rester chez soi aussi, parce qu'on travaille beaucoup chez soi. On peut s'occuper des siens.
Donc c'est une vie agréable ?
Ça sera à refaire, je le ferai volontiers. Hein.
J'allais vous poser la question, mais vous m'avez devancé, donc c'est parfait. Alors, est-ce que quand on est artiste, on a besoin de lire séquences littéraires, bien sûr ?
Oui.
On a besoin, on a le temps de lire, on a la disponibilité d'esprit ?
Quand je travaille un texte, je ne lis pas du tout d'autre chose que le texte que je suis en train de travailler, parce que c'est une véritable obsession et que... Heureusement qu'il y a un peu ce travail obsédant comme ça, parce que le texte ne vous lâche pas. Mais après, il y a des moments de vacances quand même, ça existe. Et puis des moments où je prends le train, par exemple, pour venir ici vous rejoindre. D'autres moments où j'aime lire, oui, bien sûr. Et on m'avait offert, ma propre sœur m'a offert ce livre.
Et donc vous allez nous parler, et donc je donne le titre, « Rien ne s'oppose à la nuit », c'est chez Jean-Claude Lattès, et c'est de Delphine Végan.
Oui. magnifique récit sur sa mère, en fait. Elle y raconte sa mère et son enfance et sa famille. Sa mère qui, visiblement, souffle aussi de bipolarité, mais ce n'est pas seulement pour ça que ce livre m'a touchée. Il est profondément humain, viscéral. On y trouve tous les attributs aussi d'un roman à suspense, parce qu'on est suspendu à la vie de cette femme qu'elle raconte, qui s'appelle Lucille, sa mère. Si vous voulez, je vous en...
Et j'allais vous en prier pour
profiter
de votre voix
oui.
Et du texte, bien sûr.
Donc, sa mère s'appelle Lucille, sa sœur Manon. Et donc, un petit extrait. À Bagneux, Lucille m'offrit en attendant Godot, parce que Manon me surnommait Didi et que je l'appelais Gogo. Didi et Gogo, c'est ainsi que se nomment les deux personnages de la pièce de Samuel Beckett. Deux vagabonds qui attendent comme le Messie un troisième larron qui n'arrivera jamais. À 12 ans, je découvris ce texte auquel je ne compris sans doute pas grand-chose, mais qui m'inspira cette question. Qu'attendions-nous, Manon et moi ? Quel messager, quel sauveur, quel protagoniste miraculeux susceptible de nous sortir de là, d'interrompre la spirale morbide dans laquelle Lucille était happée et de nous ramener au temps d'avant, quand la douleur de Lucille n'était pas si envahissante, ne se voyait pas à l'œil nu ? Qu'attendons-nous si ce n'était que notre mère renoue avec quelque chose qui était de l'ordre de la vie ? À mes yeux, l'homme qu'elle fréquentait à ce moment-là ne lui apportait rien, au contraire, c'était un homme fuyant qui l'aspirait vers le bas. Robert riait bêtement, marchait sur la pointe des pieds et faisait crisser la moquette. Robert était défoncé et ne voyait rien, surtout pas combien ça tanguait, et plus rien n'était stable.
C'est tellement bien lu qu'on ne peut qu'apprécier. On aimerait que vous nous le lisiez depuis le début jusqu'à la fin. Mais bon,
avec plaisir.
On pourra peut-être imaginer une émission de lecture.
C'était mon rêve
justement, on aurait
aussi,
une lectrice.
Ça.
Il y avait un très beau film là-dessus, la lectrice. On pourrait l'imaginer. Alors moi, je rappelle d'ailleurs les titres. Hein. Rien ne s'oppose à la nuit. Delphine Vegan, chez la Tess.
De Vigan.
Ah, De Vigan, je l'avais mal orthographié. Et moi, je vous parlais de tout autre livre et dont je ne vous lirai rien d'ailleurs. Ça s'appelle « Catalan malgré tout », sous-titré « L'exil catalan au XXe siècle, histoire et mémoire ». C'est écrit par un livre très sérieux, par une agrégée d'histoire, Frinet-Pigeonnet. On aura l'occasion, je pense, un peu d'interviewer, mais en duplex, parce qu'elle est à Paris. Et c'est édité par nos amis des éditions Trabucaire de Perpignan, que l'on salue au passage. Alors c'est un livre bienvenu, parce que vous savez que nos amis catalans espagnols traversent une tempête. Et l'auteur, qui est, je l'ai dit, agrégé d'histoire, mais qui est aussi docteur en histoire, donc elle a beaucoup travaillé et étudié, nous y explique comment les Catalans qui se sont réfugiés en France sous la pression des événements politiques qui ont secoué l'Espagne tout au long du siècle dernier, parce qu'au long du siècle dernier, c'est vrai que l'Espagne n'a pas été épargnée, et bien ces Catalans qui sont venus chez nous ont su maintenir, et surtout entre 1934 et 1977, une identité politique et culturelle forte, en dépit d'une position minoritaire au sein de l'exil espagnol, puisqu'il n'y a pas que les Catalans qui se sont exilés, mais ils ont su quand même préserver cette culture forte. Alors c'est un outil, à mon avis, qui permet de mieux appréhender, comprendre la crise actuelle qui secoue la Catalogne espagnole. Alors je vous en rappelle le titre, « Catalan malgré tout, l'exil catalan au XXe siècle, histoire et mémoire » chez Trabucaire. Vous le conseillez, je sais qu'il y a beaucoup de Catalans et d'exilés espagnols qui sont à Toulouse, hein, puisque au milieu du siècle dernier, à Toulouse, il y avait, je crois, 5-6 arènes. Hein, c'était véritablement devenu, Toulouse était devenue une ville espagnole. Eh bien, il y a encore des traces des deuxièmes, des troisièmes générations. Eh bien, peut-être que ça les intéressera de voir un peu quel a été le cheminement de leurs aïeux. Ce métier, vous avez dit, je le referai sans problème. Vous le conseilleriez à des jeunes ?
Oui, je le conseillerais, il faut être bien accroché quand même. Hein.
Oui, j'ai l'impression, alors vous avez commencé à 16 ans, vous avez une volonté de faire, vous avez un peu réussi dans tous les compartiments.
Je crois qu'il faut être bien accroché, oui, bien sûr, pour le faire. Il faut être déterminé, ne pas avoir peur du lendemain, savoir toujours inventer des choses... avoir des choses à dire aussi, bien sûr, c'est important. Mais c'est un métier de passion. Donc
on peut encore le faire, on peut en vivre.
On peut en vivre, oui, j'en suis la preuve vivante.
Oui, absolument. Apparemment, vous avez bien nourri, vous ne manquez de rien.
J'ai toutes les vitamines.
Voilà, vous n'êtes pas arrivé en guenille non plus. Donc...
Non, ça va. Oui, ça étonne toujours les gens quand je dis que je peux en vivre et que j'en vis depuis l'âge de 16 ans. En fait, je n'ai jamais fait d'autre métier que celui-ci. Si ce n'est serveuse pendant 2 mois dans un restaurant, mais ça n'a pas duré longtemps. Je n'étais pas une très bonne serveuse, il faut dire. Mais... on en vit. Ce que je peux conseiller à un jeune qui, c'est surtout de réaliser ses rêves, hein, parce que on peut pas passer sa vie à souffrir derrière un bureau si on n'est pas fait pour ça.
On rêve plus beaucoup aujourd'hui.
Voilà, continuons de rêver.
Oui, il faut continuer, commencer peut-être même à rêver.
Oui, rêver, éveiller, c'était mes vœux de cette année, donc c'est un peu tard pour les vœux, mais...
Non, on peut encore un peu.
On peut encore un peu, voilà.
Préparer ceux de 2019 aussi, c'est pas interdit.
Vivre vos rêves éveillés. Oui.
C'est un monde dur, on parlait dans l'actualité, Elbruis, de toutes ces agressions sexuelles dont on parle, et ça a démarré par le monde du cinéma, par un peu votre monde. Mmh. Vous avez connu ça, vous ?
Et oui. Ça serait l'objet d'une autre émission, peut-être.
On l'a un peu traité, mais écoutez, oui. Si vous voulez revenir nous en parler, pourquoi pas.
Oui, malheureusement, c'est un comportement masculin assez répandu et qui était facile avec une jeune fille de mon âge.
Oui, puis on a évacué des noms tout à l'heure.
Voilà.
Qui ont,
ça chauffe un peu.
On retrouvait derrière les barreaux pour ce genre de choses.
Voilà.
Mais bon. On ne va pas revenir là-dessus. Cécile Jacquemin, où est-ce qu'on vous voit aujourd'hui ?
Aujourd'hui et bientôt, on me voit vendredi à l'espace Soleilla à Bessières à 21h et on me verra au Fil à Plomb du 28 février au 3 mars au Théâtre du Fil à Plomb qui est donc à Arnaud Bernard.
Toujours dans le bip pour jouer
pour bipolaire,
votre pièce
voilà,
bipolaire.
Bipolaire qu'on peut voir. Donc,
de Brice Forest et dans lequel vous faites un one-man show. Oui. Donc, Bessières et...
Et le théâtre et du Fil à Plomb à Toulouse.
Théâtre du Fil à Plomb, voilà.
Entre bien de la chaîne, voilà.
Nous vous retrouverons là avec grand plaisir. Merci Cécile Jacquemet d'être venue nous rejoindre sur Radio Occitanie. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne. Merci à Jean-Louis Arzac qui assurait la technique. Sans lui, rien ne marcherait. La semaine prochaine, on sera toujours un peu dans le même domaine parce que je recevrai un organisateur de spectacle, un patron de cabaret que j'ai déjà eu dans Cap Cap et des chanteurs lyriques. On va parler d'opéra et de bien d'autres choses encore, mais beaucoup d'opéra, peut-être qu'ils chanteront s'ils ont la voix un peu chaude. Donc si vous voulez revenir nous voir, ce sera au même endroit, à la même heure et vous serez bien sûr la très bienvenue. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Occitanie Première ainsi que sur le site de la station. N'oubliez pas, rediffusion de l'émission demain mardi à 12h, qu'on se le dise. Et puis vous la retrouverez également ce week-end puisque Jean-Loup nous prévoira les rediffusions qui vont bien. Bonne semaine à toutes et à tous. Adéo.